Galaxy 98.5. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Galaxy. Aujourd'hui, nous recevons un invité au parcours riche. Bonjour Manuel Touraille.
Bonjour.
Vous êtes homme de scène, de mots et auteur de votre premier roman, un roman singulier, profond, aux allures de voyage intime et sensoriel, Le sourire de la licorne. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu Le sourire de la licorne. C'est un titre intrigant, presque onirique. Alors, de quoi parle ce roman? Quelle histoire aviez-vous envie de raconter?
Alors finalement, Le sourire de la licorne, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. On dit même d'une infinie passion qui finit par passer, mais qui demeure. Donc voilà, c'est tout le mystère. Et cela emprunte aussi des chemins romanesques au sens moyenâgeux. Enfant, j'ai toujours aimé les contes et les légendes, que ce soit du Moyen-Âge ou des contrées lointaines. Et donc, la licorne, c'est le personnage féminin, et le dragon, c'est le personnage masculin, et c'est la rencontre entre une licorne et un dragon.
Le protagoniste semble porter une vie pleine, fragmentée, et pourtant d'un seul tenant. Qui est-il pour vous? Est-ce que c'est un double, un témoin, une énigme, un symbole peut-être?
Alors, comme c'est aussi une histoire de guerre, puisqu'il y a la guerre d'Algérie, moi je n'ai pas l'âge d'avoir fait la guerre d'Algérie, mais j'en ai entendu beaucoup parler dans ma famille, et je me suis beaucoup inspiré des récits de mon père, de mon beau-père, ou même du fils de mon parrain, parce qu'ils étaient tous de bords très différents. Certains étaient engagés et d'autres ont été comme ça saisis. Ils ont été faire leur service militaire parce qu'on n'y pouvait rien, on était obligé d'aller en Algérie. Et donc le roman commence au moment où Eric revient à Marseille puisqu'il est originaire de Marseille.
Pour décrire un petit peu plus votre carrière, vous êtes issu du théâtre, de la mise en scène. Vous avez longtemps œuvré dans le spectacle vivant en tant qu'assistant réalisateur, directeur de théâtre, programmateur et passeur d'histoire. Comment on passe du théâtre et du cinéma à l'écriture romanesque?
Déjà, enfant, on est habité par les livres qu'on lit. Et puis, je me souviens même que la toute première fois au lycée, j'avais demandé à ce qu'on fasse un film tous ensemble, toute la classe. Et j'avais choisi, c'était pas facile, mais j'avais choisi L'étranger de Camus. Parce qu'en plus, c'était du côté de Toulon. Et donc, on a été tourner des scènes au bord de la mer. On nous avait prêté la cour de justice de Toulon. C'était déjà donc un goût. Aller chercher la difficulté, mais quand même la maîtriser, essayer de la maîtriser. Et puis, une autre fois, j'avais monté aussi un spectacle sur la façon dont la littérature parle de la jeunesse. Par exemple, on n'est pas sérieux quand on a 18 ans d'Arthur Rimbaud. Et on peut aller chercher comme ça chez Musset, chez... Enfin, c'était dans le théâtre. Et souvent, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre et des scénarios. Et c'est plus de l'écriture à la demande, à la commande, le cinéma et le théâtre. Il faut vraiment que ça devienne vivant tout de suite. Alors que la nouvelle ou le roman demande plus de maturité, une maturation.
Aujourd'hui, l'écriture occupe quel espace dans votre vie? Comme vous avez également l'envie d'écrire des nouvelles, des pièces de théâtre?
J'ai toujours en tête d'avoir un projet à écrire. Et pas 10, parce que 1, ça suffit bien pour le mener à terme. Et j'ai toujours eu une préférence pour la nouvelle ou l'album jeunesse, pour une question de temps consacré à l'écriture d'un ouvrage. Là, récemment, pour un concours à Carbone, j'ai fait dialoguer un oiseau, une mésange et un vieil homme. Dans une nouvelle de Sillage d'Océanie, j'ai fait parler une baleine avec un poisson clown. Évidemment, ce sont des rencontres complètement improbables. On imagine le poids de l'un et le poids de l'autre. Mais ce qui est important, c'est la façon dont on va être inspiré. Et une fois qu'on est lancé dans le roman, on est poussé par un style et on finit par dire « là, j'écris le mot « fin ». ». Et vous avez vu, le roman n'est pas très long non plus. Je ne dis pas que c'est comme une longue nouvelle, mais quand on est vraiment dans un roman, ça peut faire 300, 400 pages.
Puis ça prend du temps d'écrire aussi.
Oui, alors le monde du spectacle, c'est déjà un monde, ou du cinéma, c'est déjà un monde de l'urgence, de l'organisation. Il faut être apaisé, donc il faut laisser du temps entre son travail professionnel et puis... On prend un plus sur ses loisirs pour se dire « là, je vais me mettre à écrire ». Parce que si on s'arrête d'écrire ne serait-ce qu'un mois, on met beaucoup de temps à s'en remettre.
D'accord. Et dans votre roman, vous parlez de thèmes très puissants, l'amour, la passion, la guerre, vous l'avez dit, la mémoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur cette histoire-là, l'histoire d'Éric? Une nécessité personnelle, une idée de fiction qui est arrivée comme ça, les deux peut-être?
Oui, encore une fois, c'est un récit d'imagination et je me suis inspiré de personnes de la famille qui pouvaient avoir des pensées et des caractères très contradictoires. Et ce qui m'intéressait, c'était de figurer cette rencontre entre cet homme qui revient de la guerre et puis une femme qu'il rencontre à Paris. Et c'est un peu comme un coup de foudre. Et là, il y a presque un état de guerre parfois aussi entre les deux. Donc c'était cette histoire-là qui commence par finalement la fin, presque la fin. On a un homme qui vit confortablement et lui arrive quelque chose qui va faire qu'il va se remémorer le passé. Et le deuxième chapitre, c'est le cœur du réacteur. C'est l'histoire qui a tout emporté dans sa vie. Et le troisième chapitre, c'est l'après. Ce qui fait de ce souvenir et de cet être présent qu'il est, quelle décision prend-il? Je ne vais pas tout raconter, bien sûr.
Non, il faut garder un petit peu de suspense. Votre écriture est poétique et très incarnée, avec une grande part d'introspection et de réflexion sur le sens de l'amour, de la vie, donc de la part du personnage. D'où vous vient ce goût du mot juste, de la nuance et du récit?
Eh bien, le fait de venir du théâtre et du cinéma, c'est le théâtre, on va dire, c'est le dialogue. Mais c'est aussi un enjeu de corps, donc j'adore les dialogues. Mais il y a aussi des dialogues intérieurs. Au théâtre, les gens disent tout haut ce qu'ils pensent. C'est une forme de monologue que d'habitude, si on voit quelqu'un dans la rue comme ça, enfin, on se dit qu'il parle à son téléphone, mais au théâtre, on a le droit de parler tout seul avec soi-même. Et puis au cinéma, moi, j'ai l'impression aussi, quand j'écris, que je cadre mes personnages. C'est-à-dire, je vois les paysages. Donc c'est pour ça qu'il y a un mélange de poésie et en même temps, c'est comme s'il y avait des plans. Parfois, c'est un travelling, parfois, c'est un plan large, parfois, c'est un plan rapproché. Et souvent, après, c'est une forme de style, mais souvent, j'ai vu dans la vie qu'on va dire des choses, mais pas forcément tout ce qu'on pense. Donc là, dans le roman, il y a ce que dit l'un, ce que dit l'autre, mais ce qu'il se dit sans le dire à l'autre. Mais nous, lecteurs, on en est quand même témoins. Donc, on a ce petit plus, mais on se dit, ah, l'autre personnage ne le sait pas. Alors là, ça veut dire que la fiction est réussie si on commence à penser que le personnage existe.
Vous parlez de la notion de région du cœur qui ne figure sur aucune carte et ça revient souvent dans votre texte. C'est assez complexe à visualiser et ça peut paraître un petit peu flou. Qu'est-ce que cette région représente pour vous?
Alors voilà encore le retour du romanesque et du Moyen-Âge parce qu'on parlait du dragon et licorne. Et il se trouve que dans les romans de chevalerie, il existe la carte du tendre. C'est comme si on faisait un voyage, sauf qu'on fait un voyage dans les affres de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a la montagne passion, il y a le lac je m'ennuie, il y a les affres de tout, la peur, et puis l'amour serein, l'amour courtois bien sûr. Mais c'est tout le chemin pour aboutir à ce qu'on appelle à ce moment-là l'amour courtois. Donc c'est cette région-là, ce que j'appelle la région du cœur, parce qu'évidemment cette forêt ou cette montagne imaginaire n'existe qu'en nous. Et puis quand j'entends aussi souvent que les gens sont attachés à leur région, parce que là il est beaucoup question de la Provence, de Marseille, d'une description de paysages, de forêts, de calanques, où j'ai grandi, où j'ai vécu, c'est important aussi parce qu'on aime, on a aussi sa région dans le cœur, et parfois c'est la région qui vous pousse à l'aimer. C'est souvent ce que j'ai entendu quand les gens disent qu'ils aiment leur région, et ils font bien d'aimer leur région.
Est-ce que vous voyez une suite pour vos personnages? Sans trop en dévoiler sur la fin, on peut être curieux sur ce que pense l'entourage d'Éric, de sa réflexion et de ses tourments après avoir fait face à sa mortalité.
Alors, non, je n'ai pas imaginé de suite, parce que dès qu'on finit un roman, il faut se dire qu'on met le point final, puis ça finit en disant « la page est blanche ». Donc la page est blanche, c'est peut-être à la lectrice ou au lecteur. Donc ça, c'est peut-être encore l'habitude du cinéma ou du théâtre, où on se dit « quand on finit le livre », faut continuer à travailler quand on est lectrice ou lecteur. Et il faut se dire, tiens, qu'est-ce que pourrait faire le personnage? Mais pour le moment, non, il n'y a pas de suite. Il y a prochain roman, mais pas de suite.
D'accord. Le titre, Le sourire de la licorne, intrigue. Pourquoi ce choix et que symbolise cette licorne dans une histoire aussi réaliste au final?
Alors, la licorne, souvent, je ne sais pas si vous voyez dans les peintures des différents siècles, il y a souvent des petites licornes, il y a des licornes de compagnie, il y a des grandes licornes que l'on voit aussi dans la forêt. Donc, c'est à la fois un animal magique, et c'est aussi, pour moi, c'est une image de la féminité. Et puis, dans le roman, la femme devient antiquaire et elle a une licorne chez elle. Donc, elle a fait aussi le choix d'avoir une forme d'alter ego avec une sculpture de licorne qui est décrite dans le roman. Et quant à Éric, dès les premières pages, on sent que c'est un vieux dragon, mais un dragon séducteur, pas un dragon méchant. Mais il porte en lui ce côté un peu dragon. Et le dragon, c'est encore une fois le chevalier qui va lutter contre le dragon. Quelquefois, le chevalier devient dragon lui-même une fois qu'il l'a tué. Donc voilà, c'est situé dans un Moyen-Âge pour les deux animaux, mais vraiment dans une réalité toute contemporaine pour les vrais personnages.
En parlant de personnages, d'histoire, avez-vous des modèles littéraires, des auteurs ou des textes qui vous ont inspiré dans l'écriture de ce roman en particulier?
Il y a toujours les grandes figures qu'on aime, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais par exemple, moi j'étais passionné de poésie romantique, mais que ce soit la poésie romantique espagnole, la poésie romantique française, anglaise, allemande. J'avais même réalisé un film d'après Hölderlin sur Éleusis, et c'était au bord de la mer, là aussi. Donc il y a cette forte inspiration poétique, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne lis plus de poésie. Je pense qu'il y a peu de gens qui lisent de la poésie, mais il ne faut pas oublier d'en lire. Et c'est vrai que des amis m'ont dit que mon écriture était assez poétique pour ça. Mais pas au sens de... Parce que la poésie, il faut avoir la science du mot juste, il faut avoir le rythme. Et donc, c'est un peu ce mélange entre le théâtre, l'image et la poésie. Et beaucoup aussi la philosophie, parce que j'ai fait des études de philosophie. Et quand les personnages s'interrogent sur eux-mêmes ou sur l'autre, c'est pas pour être ennuyeux. C'est qu'ils se posent toujours des questions. Ils sont toujours à l'affût. C'est vraiment des rencontres parce que chacun se regarde, chacun s'observe et il se passe quelque chose. Quand on écrit, on peut imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. On a cette liberté.
Manuel Touraille, si vous aviez un vœu pour ce roman, non pas en termes de succès, mais en termes de résonance, qu'aimeriez-vous qu'il laisse chez ses lectrices et lecteurs ?
En fait, on est toujours à la recherche d'un style et j'ai choisi, parmi les 2-3 romans que j'ai dans mes tiroirs, j'ai choisi d'éditer celui-ci parce qu'il est le plus représentatif d'un certain style. Donc, ce que j'aimerais, c'est que le style ne se voit pas et que les gens, quel que soit leur âge, se reconnaissent dans quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait le plus plaisir parce que ça veut dire qu'il reste dans ce livre une capacité de dialogue entre les personnages, mais aussi avec l'autre, c'est-à-dire les lectrices et les lecteurs.
Et enfin, pour suivre votre actualité, est-ce que vous avez un site internet où on peut vous suivre sur les réseaux ?
Oui, alors sur Facebook, on peut me trouver. Et sinon, pour commander le livre, ce sont les éditions Amaltée. Et ça peut être aussi Cultura, la Fnac, pour les commander. Mais surtout les librairies indépendantes, parce qu'en plus, souvent, elles nous invitent pour des dédicaces. Et c'est très important pour nous.
On va de suite aller se procurer le sourire de la licorne. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci pour vos réponses. On vous souhaite un très bel été.
Merci, bel été à vous également.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.